réseau Cogeco vous présente Mythes et complots.
Mythes et complots.
Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Christian!
Salut Jeff!
Noël s'en vient.
Ben oui.
Et on a pensé vous présenter pour les deux prochaines émissions, celle-ci et la suivante, un spécial sur la Bible.
Ouais.
Et sur, par exemple, Jésus la semaine prochaine. Et cette semaine, on va s'attarder notamment à Moïse.
Qui... D'ailleurs, je te mentionne la semaine prochaine, disons-le tout de suite pour les auditeurs, ce sera un spécial de 2 heures
ouais.
Sur l'énigme Jésus. Qui était Jésus? A-t-il réellement existé? Aurait-il pu survivre à la crucifixion comme le voudraient, par exemple, les tenants de la théorie de la lignée christique que les gens ont peut-être découvert à travers le roman de Dan Brown, Le Code de Da Vinci?
Oui.
Donc, cette lignée christique a-t-elle un fondement historique? Donc, l'énigme Jésus, la semaine prochaine, un spécial de 2 heures. Mais cette semaine, comme tu l'as mentionné, on va s'attarder à ce qu'on appelle généralement l'Ancien Testament, mais plus précisément au livre de la Torah, ou dans la religion catholique, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Et le Pentateuque, oui, c'est composé de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Livre des Nombres et le Deutéronome. Donc, ce sont ces 5 premiers livres qui forment la Torah et qui forment le Pentateuque dans la religion catholique.
Parfait. Et qui a écrit la Torah? On va se poser cette question-là. On n'a pas la réponse, par contre.
Non, voilà. C'est une grande question sur laquelle les historiens planchent depuis très longtemps. D'abord, il est très important, Jeffrey, de mentionner, là, avant d'aller plus loin, que je sais qu'il y a des gens, on fait une émission d'une heure.
Oui.
On devra faire des raccourcis. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont férus d'histoire, qui nous écoutent. Ils vont dire, ouais, mais c'est des énormes raccourcis que l'on fait, mais il faut quand même tenir compte qu'on a une émission d'une heure. On va également se limiter essentiellement à ce que l'on appelle les écrits canoniques. Donc, ce que l'on retrouve ou ce que les gens peuvent retrouver chez eux dans leur Bible. Donc, l'Ancien Testament, les 5 premiers livres de cet Ancien Testament constituent la Bible, la Sainte Bible, dite Bible canonique. Je sais qu'il y a énormément de textes. Il faut savoir que dans l'histoire, aux alentours de l'an 325, il y a eu en Turquie ce qu'on a appelé le premier concile de Nicée. Et à cette époque, des évêques de la religion catholique de l'Empire romain se sont réunis pour déterminer quels seraient les textes qui formeraient la Bible canonique. On a fait une sorte de décantage un peu arbitraire, il est vrai, de certains textes. D'autres, et les autres ont été mis de côté. Non pas parce que l'Église souhaitait les cacher, mais parce que l'on considérait que ces textes étaient redondants ou que ces textes n'apportaient rien à la compréhension de la foi. Parce qu'il est là le nœud du problème. Il faut se rappeler que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Prendre ce livre-là de manière littérale est une grande erreur. Les gens qui ont écrit la Bible ne l'ont pas écrit dans l'objectif de nous raconter une trame historique. Ils l'ont écrit pour nous raconter l'évolution, le partage d'une foi. Et c'est à travers ce livre-là qu'ils nous la font découvrir. Donc, et il faut également se
Donc,
rappeler...
Donc, l'objectif est clair.
L'objectif est clair. Et il faut également se rappeler que 90% des textes de l'Antiquité ont disparu. Donc, tous les textes qui étaient gardés dans les grandes bibliothèques, que ce soit à Alexandrie, que ce soit à Rome, que ce soit à Athènes, tous ces ouvrages-là ont disparu. Ils ont été brûlés, il y a eu des incendies, il y a eu des inondations, des tremblements de terre. À travers le temps, il ne reste à peu près plus que 10% des écrits de l'Antiquité. Donc, c'est très difficile de répondre à la question qui a écrit la Torah ou le Pentateuque. La tradition voudrait que l'auteur de ces textes soit Moïse. En fait, on a longtemps cru que l'auteur de ces textes, selon la tradition, était Moïse.
Parce que dans ces textes, il y a notamment les lois de Moïse, les 10 commandements.
Et parfois, l'auteur donne l'impression qu'il est lui, le narrateur laisse croire qu'il est lui le personnage principal de l'histoire. Donc, d'où le fait que la tradition a longtemps attribué l'écriture de ces 5 premiers livres à Moïse. Mais il y avait déjà un petit problème. Hein. Par exemple, dans le Deutéronome, on raconte la mort de Moïse et on raconte sa succession avec Josué. Moïse n'a certainement pas pu écrire sur sa mort et par la suite sur sa succession. Donc là, on a un petit problème. Mais disons qu'aujourd'hui, et là, on va toujours y aller, Jeff, si tu le veux bien, avec l'hypothèse dominante. Ici, on n'est pas dans les certitudes. On n'en a pas de certitudes. On le dit bien, là, il n'y en a pas de certitude.
Il n'y a pas de consensus.
Non.
Il n'y a pas de
certitude. On va du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Et on va toujours naviguer dans ces eaux-là. Du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Donc, si on y va vers le vraisemblable, l'hypothèse dominante aujourd'hui, les historiens croient que le Pentateuque, ces cinq premiers livres de l'Ancien Testament, n'ont pas été écrits par Moïse. Ils ont probablement été écrits par quatre sources différentes. Des sources dont les plus anciens textes remontent à peu près à l'an 1200-1300 et les textes les plus récents datent à peu près de l'an 300 avant Jésus-Christ. Donc, on a cette longue période où on va colliger des textes et ces quatre sources-là, elles sont décrites d'ailleurs sous deux noms assez significatifs. Une première source qu'on dit la source éloïste parce que ces sources-là, deux sources principalement, parlent de Dieu sous le nom de Elohim, un pluriel, et où aussi, oui. Parce qu'on va tout de suite régler ça, là, les adeptes du mouvement raélien nous disent que Elohim veut dire ceux qui viennent du ciel, et c'est un pluriel, mais c'est également une marque de vénération. Par exemple, quand tu parles à tes grands-parents, tu vas t'adresser à eux en disant, êtes-vous allé au magasin ou êtes-vous allé au restaurant? Ça veut pas dire qu'ils sont plusieurs. Hein. Tu peux t'adresser à ta grand-mère ou à ton grand-père en utilisant
une
marque de respect. Donc, le mot Elohim est à la fois une marque de respect et un pluriel. Donc, la source éloïste parle de Dieu sous le terme de Elohim, alors qu'une autre source, la source yavétiste, elle parle de Dieu sous le terme de Yahvé. Donc, on a quatre auteurs minimalement, je le dis bien, minimalement quatre auteurs, dont deux parlent de Dieu sous le terme d'Elohim, deux sous le terme de Yahvé. Et il est peu vraisemblable que l'une ou l'autre de ces sources ait été Moïse. D'ailleurs, l'existence de Moïse est une question qui relève sur le plan archéologique et historique. C'est une question qui est encore débattue aujourd'hui et on a dit de la difficulté à se prononcer là-dessus.
Et on va voir pourquoi après la pause, dans le détail.
Oui, absolument. Oui. Donc, on ne sait pas exactement qui a écrit ça. L'idée de penser que Moïse a pu être l'auteur de ça est très difficile. Est-ce que Moïse aurait pu écrire une ligne, une simple ligne de la Torah? C'est très difficile parce que quand on regarde les textes, par exemple, les textes les plus tardifs de l'Exode ou les textes les plus tardifs du Deutéronome arrivent aux alentours de l'an 400, 600, même si on va plus loin, on a même des textes qui datent à peu près de l'an 800 avant Jésus-Christ. Or, si Moïse a existé, avec un grand si Moïse a existé, les historiens le situent à peu près sous le règne du pharaon Ramsès II. Or, s'il a vécu sous le règne de Ramsès II, ça veut dire qu'il vivait à peu près 1300 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on aurait une tradition orale d'à peu près 600 ans entre l'existence de Moïse, si il existait, et l'écriture des premiers textes. Donc,
alors,
ça devient très
difficile. Si on résume rapidement, là, puis je fais un raccourci
énorme.
Entre 1300 et 300 ans avant Jésus-Christ, on parle de milliers de textes probablement,
oui,
colligés dans ce qu'on appelle la Bible canonique. Donc, on a fait une compilation du best-of.
Ouais. Mais quand on parle de la Bible canonique, là, on parle principalement du Pentateuque. Hein,
oui, le Pentateuque. Et dans le but, dans un objectif, celui de promouvoir des croyances.
Voilà. Donc, c'est une foi naissante et ces gens-là témoignent, les auteurs de ces textes vont témoigner à la fois de cette foi naissante, ils vont témoigner de leur compréhension du divin et également, ils vont introduire des lois qui seront à la fois des lois moralistes, des lois sociales qui vont permettre l'évolution de la communauté. C'est ça l'objectif, oui, des textes. L'objectif des textes, il faut le rappeler, n'est pas de nous raconter l'histoire comme le ferait un historien ou un journaliste de cette époque.
Un seul Dieu tu aimeras et adoreras parfaitement.
Voilà, donc c'est une religion monothéiste, hein, donc avec un seul Dieu. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que...
Oui.
On sait aujourd'hui, et là encore, on fait des raccourcis, je me sens tout le temps mal à l'aise quand on fait des trucs comme ça, mais on fait d'énormes raccourcis, mais il est vrai que à l'époque, les Hébreux, si on parle aux alentours de l'an 1000 avant Jésus-Christ, les Hébreux avaient des échanges énormes avec des peuples qui venaient de la Mésopotamie, en fait les Sumériens. Ils avaient également des échanges avec les Égyptiens, avec les Perses, avec les Grecs. Donc, ils avaient d'énormes échanges avec d'autres communautés, et on peut le sentir dans l'écriture des textes. Quand quand on lit les textes, par exemple, on voit qu'il y a des emprunts. Il y a des textes qu'on est allé chercher ailleurs, qu'on a remodelés pour finalement les adapter dans une religion monothéiste qui va devenir la religion hébraïque.
Et avant de raconter Moïse après la pause, il est important de spécifier qu'on ne fait pas de jugement. Les croyances sont légitimes et on les respecte.
T'as tout à fait d'accord avec toi. On va parler essentiellement, comme je l'avais fait en 2008, j'ai fait une série qui s'appelle « À la recherche des reliques saintes » où pendant des mois, avec une équipe de cinéastes, on a parcouru le monde. J'ai essayé de retrouver l'Arche d'Alliance. J'ai essayé de retrouver l'Arche de Noé. Bon, c'est ce genre de truc, la tunique du Christ, les clous de la crucifixion. Donc, pendant des mois, j'ai parcouru le monde en quête de ces objets. Je suis allé sur l'Ararat, me geler les pieds pour retrouver l'Arche de Noé. Et quand on avait fait ce travail-là, on l'avait fait essentiellement dans une vision historique et archéologique. Et aujourd'hui, tu fais bien de le mentionner, ce sera essentiellement notre leitmotiv. Présenter ces éléments-là dans un cadre historique et archéologique, on ne se prononcera pas sur la légitimité de la foi. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. On est simplement là pour apporter une vision historique et archéologique.
Après la pause, le mystère Moïse. Est-ce que l'histoire de Moïse est empruntée à des légendes anciennes, plus anciennes encore que celles de Moïse? On y revient dans quelques minutes à Mythes et Complots. Merci, Christian.
Ça me fait plaisir.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Et on revient à Mythes et Complots avec les mystères de la Bible. Et pour ce bloc-ci, Christian, on s'attarde sur Moïse. D'abord, Moïse a-t-il existé?
Voilà une grande question. Et ça, les historiens n'arrivent pas à trancher. Encore une fois, on ne parle ici pas de certitude historique, mais du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Mmh. Et on est dans un domaine où il n'y a absolument aucune certitude. Ce que l'on sait, par exemple, c'est est-ce que Moïse a existé? Regardons sur la trame que nous fournit la Torah ou le Pentateuque. Qu'est-ce qu'on nous dit du personnage? En fait, on nous dit qu'il aurait vécu... Il aurait grandi à la cour d'Égypte. Déjà là, on a un premier élément dans l'histoire qui est dissonant. On raconte la façon dont Moïse arrive à la cour d'Égypte, aboutit. En fait, il est né d'un couple hébreu. Sa mère va le placer dans un panier en osier. Elle va le couvrir de bitume, le mettre sur les eaux du Nil. Il sera éventuellement récupéré par la fille de Pharaon et ainsi grandir en partie à la cour du Pharaon. Déjà là, cette histoire-là, elle a un sérieux problème. Dans un premier temps, essentiellement sur le plan technique, il n'y avait pas de bitume en Égypte. Donc, on voit mal comment on aurait pu couvrir le petit panier d'osier de Moïse de bitume. Mais il faut savoir qu'à peu près 1000 ans avant que ne soit écrit la naissance de Moïse, il y avait en Mésopotamie une légende très populaire qui était la légende du roi Sargon d'Akkad. Et le roi Sargon d'Akkad était né exactement de cette façon. Donc, il est né d'un couple ordinaire. Il est placé dans un panier d'osier qu'on recouvre de bitume. Il va être éventuellement recueilli par une princesse qui va évidemment l'amener à la cour et éventuellement il va devenir l'un des plus puissants et des plus grands rois de Mésopotamie, le roi Sargon. Et on voit que cette histoire a été écrite 1000 ans avant l'Exode et 1000 ans donc avant le récit de Moïse qui lui est accueilli par la fille du Pharaon exactement de la même façon.
Christian, des textes de la Bible auraient pu être empruntés à des légendes encore plus anciennes.
Ah, définitivement. Donc, encore une fois, on l'a mentionné dans la première partie de l'émission, il y avait à cette époque un contact omniprésent entre les Hébreux, les Égyptiens, les Perses, les gens de Mésopotamie. Donc, visiblement, on s'empruntait comme ça des légendes qu'on reformatait au mieux de notre besoin, disons, de spiritualité, l'objectif principal. Donc, l'existence de ce Moïse, elle est remise un peu en question ici, à tout le moins sur le récit de sa naissance. Maintenant, a-t-il grandi en Égypte? A-t-il fait ce qu'on raconte? Parce qu'on lui prête toutes sortes de choses fabuleuses.
La libération,
en fait, l'Exode même et l'histoire de ces Hébreux qu'on va sortir d'Égypte pour vaincre Pharaon. D'ailleurs, il faut bien mentionner ici que dans la Bible, le Pharaon en question n'est jamais mentionné. Donc, à toutes les fois où le texte fait référence à Pharaon, il le désigne sous le nom de Pharaon. Par contre, dans le premier, dans les premières lignes de l'Exode, on nous dit que les Hébreux ont construit la ville de Ramsès. Donc, si on construit la ville de Ramsès, tu comprends, si je construis la ville de Jeffrey, ben, c'est parce que probablement Jeffrey a demandé la construction d'une ville. Donc, on tire comme conclusion que Ramsès devait être le pharaon qui tenait les Égyptiens, pas les Égyptiens, pardon, les Hébreux sous son joug. Donc, on situe l'existence de Ramsès II, là, à peu près 13 siècles et demi avant Jésus-Christ. Donc, on suppose que l'époque de Moïse, c'est celle-là.
Mais il y a quand même, donc, il faut mentionner l'intention légitime de dénoncer, par exemple, l'esclavage.
Oui, absolument. Il y avait ces éléments-là. Mmh. La grande problématique, essentiellement sur le plan historique, bien sûr, on ne trouve à aucun endroit dans des textes égyptiens, dans des stèles égyptiennes, dans les hiéroglyphes égyptiens, on ne trouve absolument aucune référence à cette histoire de l'Exode. Et on parle d'un Exode important, parce que on va revenir d'ailleurs sur ces éléments-là lorsqu'on va parler du désert du Sinaï, on parle quand même, la Bible nous mentionne que Moïse va quitter l'Égypte avec 600 000 hommes.
Oui.
Ça n'inclut pas forcément les femmes, mais la Bible est claire que ça n'inclut pas les enfants. Donc, c'est énorme. On parle de 600 000 à 1 million de personnes qui se seraient exilées d'Égypte. Et à aucun moment dans les écrits égyptiens, dans les hiéroglyphes, dans les stèles égyptiennes, on ne parle de cet exode, ni de Moïse, ni rien de tout ça.
Et sur le plan archéologique, Christian?
Voilà, sur le plan archéologique, bien sûr, on n'a pas cette preuve-là. D'ailleurs, les historiens contestent ces éléments-là. D'ailleurs, en ce sens que rien ne permet de croire que les Égyptiens ont jamais disposé d'un demi-million d'esclaves hébreux. Donc, ça, on n'a pas ça sur le plan historique. Ensuite, lorsque Moïse va quitter cette Égypte, dans l'Exode, on nous dit qu'il apporte avec lui, il emmène derrière lui, à sa suite, 600 000 hommes libérés. Là, on ne sait pas trop si par homme, on sous-entend également les femmes, mais une chose est certaine, la Bible dit, ça ne compte pas les enfants. Donc, on parle ici d'à peu près 1 million de personnes qui vont fuir l'Égypte. Ils vont errer dans le désert du Sinaï, qui est en Égypte. La péninsule du Sinaï, ça appartient à l'Égypte d'aujourd'hui. Ils vont errer 40 ans dans ce désert du Sinaï avant de rentrer en terre promise, la terre promise qu'on appelle terre de Canaan dans l'Ancien Testament ou dans la Torah et le Pentateuque. Une occupation du désert du Sinaï pendant 40 ans d'un groupe qui représente à peu près 1 million de personnes, ça laisse des traces.
Oui.
J'y suis allé dans le Sinaï. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans le Sinaï, il y a beaucoup d'éléments qui font référence à cet Ancien Testament. Où on nous parle, par exemple, du mont Horeb, où Moïse aurait reçu les 10 commandements avec le buisson ardent. D'ailleurs, là où se trouvait le buisson ardent, il y a aujourd'hui un monastère, le monastère Sainte-Catherine, qui a d'ailleurs été qui fait partie aujourd'hui de la liste des monuments de l'UNESCO.
Oui.
Mais historiquement parlant, on n'est pas certain que ce mont Horeb soit le même auquel la Bible fait référence. On n'est pas certain que la chaîne du Sinaï soit la même à laquelle la Bible fait référence. Donc, on voit, on est dans un domaine d'incertitude. Mais s'il y aurait eu une occupation du désert du Sinaï pendant 40 ans par un groupe de gens importants, même si ce n'était que 200 000 ou 300 000 personnes, oublions le million de personnes que propose la Bible,
on aurait
laissé des traces. Or, j'y suis allé, j'ai rencontré des archéologues qui sont sur le terrain, et sur le plan de l'archéologie et de l'histoire, il n'y a aucune preuve d'une occupation importante du désert du Sinaï. On a trouvé bien sûr des preuves d'une occupation locale, des petits groupes de gens, des petits groupes de nomades ont pu s'installer de manière sédentaire, de manière non pas permanente, mais pendant quelques années avant de se déplacer. On a trouvé des traces de ça. Mais on n'a pas trouvé la trace d'une occupation massive comme celle qui est décrite dans l'Exode. Donc là, les preuves historiques et archéologiques ne vont pas dans ce sens-là. Et bien sûr, aucun texte en dehors des textes de la Torah, du Pentateuque, ne mentionne cette occupation de ce peuple hébreu dans le désert du Sinaï. Donc, est-ce que Moïse a existé? Les historiens disent... Il est possible, on l'a mentionné en première partie de l'émission, il y a eu cette longue période d'à peu près de 600 ans de tradition orale avant que les premiers textes soient écrits. Alors, il est possible que Moïse ait été un chef de clan. Il est peut-être un personnage collectif. On s'est inspiré de plusieurs personnes pour fabriquer un Moïse plus grand que nature, plus grand que le Charlton Heston des 10 commandements. Tu comprends? Donc, on a voulu faire de lui une super vedette. Et c'est ce Moïse-là dont va hériter, en fait, les textes de la Torah. Torah, donc un Moïse plus grand que nature. Mais sur le plan de l'histoire, rien ne permet de croire que ce personnage a existé tel que nous le décrit les textes.
Donc un Moïse, une histoire inspirée d'une légende de la Mésopotamie.
En fait, au moins minimalement pour ce qui est de sa naissance. Donc visiblement, on s'est inspiré de l'histoire du roi Sargon et d'autres éléments ensuite. Et c'est sûr, Jeffrey, quand on parle de Moïse, je sais que tu es un des rares à ne pas encore avoir vu Indiana Jones et les aventures de l'Arche perdue, les aventuriers de l'Arche perdue.
Il ramène ça,
non? Oh, absolument, mais écoute, quand on parle de Moïse, pour la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a toutes sortes d'histoires associées à Moïse. Bien sûr, on a tous vu les 10 commandements, la traversée de la mer Rouge. Hein, Dieu ouvre les eaux pour permettre aux Hébreux de traverser à gué et ensuite va refermer les eaux sur les armées de Pharaon. Mais un des éléments qui fait fantasmer les gens, c'est la création d'une simple boîte. Hein. Dans la Bible, alors que Moïse est sur l'Horeb, il va recevoir de Dieu toutes sortes de commandes et l'une de ces commandes concerne la construction d'une arche, une boîte pour laquelle Dieu donne des informations, des indications très précises. Elle mesurera 2 coudées et demie de longueur, 1 coudée et demie de largeur, 1 coudée et demie de hauteur. Tu la couvriras d'or pur en dedans et en dehors. Tu fonderas pour elle un couvercle avec les anges, des chérubins sur le dessus, avec les ailes retournées vers l'intérieur. Donc, il donne des indications très précises. L'arche sera également un objet extraordinaire puisqu'il dit à Moïse, tu fondras pour elle des anneaux dans lesquels tu mettras des barres de bois d'acacia. Les gens qui transporteront l'arche devront se doter de vêtements spéciaux. À un moment donné, d'ailleurs, l'arche est transportée sur une charrette et une roue se brise. Et alors qu'une des personnes essaie de toucher à l'arche pour l'empêcher de glisser, elle est foudroyée sur place par cette puissance de l'arche.
L'arche d'alliance pour communiquer avec Dieu.
Avec Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu mettras dans l'arche les 10 commandements que je te donnerai, les tablettes sur lesquelles seront inscrites les 10 commandements. Et c'est de l'arche, d'entre ces 2 chérubins sur le couvercle, que je te parlerai. D'ailleurs, il y a une séquence dans Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue, où à un moment donné, l'archéologue rival d'Indiana Jones, Belloc, dit à Indiana Jones, il dit, est-ce que tu te rends compte de ce qu'est l'arche? C'est le moyen de communiquer avec Dieu, un téléphone avec le divin. Et ça fait fantasmer. L'arche devait être un objet extraordinaire, puisqu'à un moment donné, alors le successeur de Moïse, Josué, transporte l'arche. Il fait tourner l'arche autour de la ville de Jéricho, et la seule présence de l'arche va faire effondrer les murs de Jéricho. Donc l'arche est un objet fabuleux. A-t-il existé? On sait que lorsque, toujours selon les textes de la Torah, l'arche est ramenée à Jérusalem et le roi Salomon va la faire déposer dans le très saint des saints au temple de Salomon. Et puis voilà qu'aux alentours de l'an 590 à peu près, la ville de Jérusalem va être mise à sac par les Babyloniens. Les Babyloniens, dont Nabucodonosor. Et lorsque Nabucodonosor va entrer dans le temple de Salomon, la Bible nous dit il s'est emparé de la vaisselle, des ustensiles, mais on ne mentionne pas un seul mot sur l'arche. Alors si l'arche d'alliance, cet objet qui avait contribué autant à la victoire des Israélites, si cet objet-là n'est pas mentionné lorsque les Babyloniens s'emparent du temple de Salomon, il fallait qu'elle soit ailleurs. Sinon, la Bible aurait mentionné qu'elle était tombée aux mains des Babyloniens. Alors, c'est la machine à rumeurs. Où est-elle passée? A-t-elle réellement existé? Alors, écoute, sans entrer dans tous les méandres de l'histoire, parce qu'on en aurait pendant des jours à en parler, mais il y a plusieurs hypothèses. Si l'on accepte que l'arche a existé, là, on a avec un grand si, elle pourrait être placée sous le dôme du rocher. Donc, aujourd'hui, à Jérusalem, quand on regarde des images de Jérusalem, on voit la grande mosquée, le dôme du rocher, et on nous dit que le dôme du rocher est construit sur l'ancien temple d'Hérode, qui lui-même avait été construit sur le temple de Salomon. Est-ce qu'il y aurait des souterrains en dessous dans lesquels on aurait pu déposer l'arche avant la conquête des Babyloniens? On raconte également que l'arche aurait pu être amenée quelque part en Éthiopie. On nous raconte qu'elle serait cachée dans une petite chapelle à Sainte-Marie de Aksum et elle serait toujours là aujourd'hui. Une autre légende voudrait qu'elle soit cachée quelque part dans une caverne tout près du mont Horeb, là où Moïse aurait reçu les 10 commandements. Mais c'est un objet si fabuleux, si extraordinaire, le moyen de communiquer avec Dieu.
Et que t'as tenté...
Comme disait Belloc, disait à Indiana Jones.
T'as tenté de trouver quand même.
Oui, je suis allé là-bas, je suis allé dans l'Horeb, je suis allé à Jérusalem, je suis allé en Éthiopie essayer de trouver cette fameuse arche que je n'ai pas trouvée. Je suis arrivé jusqu'au pied de la petite chapelle de Sainte-Marie de Aksum, où on nous dit que l'arche se trouve à l'intérieur, mais comme aucune personne n'a accès au bâtiment, on ne peut pas le savoir si c'est vrai. Mais c'est un objet qui fait rêver.
Et l'autre arche qui est très importante dans ces récits, l'arche de Noé.
L'arche de Noé, qui, elle, est associée au déluge. Et bien sûr, elle aussi a eu ses aventuriers.
L'arche de Noé, après la pause, à Mythes et Complots.
OVNI, fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco.
Et on est dans les mystères de la Bible. Jusqu'à maintenant, on a parlé de ces mystères et on a démystifié en disant qu'il n'y a pas de preuves historiques de, par exemple, la traversée de la mer Rouge, des Hébreux captifs du Pharaon, 600 000 à 1 million d'Hébreux qui auraient été donc libérés par Moïse. Moïse serait une histoire emprunté à une légende plus ancienne. En partie, on fait des raccourcis, je résume rapidement. Là. Et là, pour ce bloc-ci, Christian...
Parce qu'il y a une petite chose aussi qu'il faut mentionner, Jeff, c'est que dans les textes hébreux, en fait, dans la Torah, ce sont des textes fondateurs, hein, comme par exemple le Coran et bon le Mahabharata. Ce sont des textes fondateurs très inspirants. Quand on comprend quand on lit la Bible, on lit pas un article dans le Journal de Montréal. Quand on lit la Bible, on voit que le texte est très inspiré. Il faut également savoir qu'il y a comme un deuxième niveau de lecture de ces textes-là, une sorte d'enseignement ésotérique. Hein, il y a des nombres qui reviennent, le nombre 12, le nombre 7. Donc il y a des nombres. Il y a comme un enseignement ésotérique mystérieux et caché à un point tel que même dans la culture hébraïque, on s'est même fait un livre pour comprendre les enseignements ésotériques. Et là, je fais un raccourci quand je dis un livre, une espèce de codex qu'on appelle la Kabbale. Tu as probablement entendu ce nom-là de la Kabbale. Mmh. Donc, la Kabbale, dans la culture hébraïque, c'est une espèce de livre qui nous permet de décoder les symboles et les enseignements ésotériques de la Torah. Donc, on voit que c'est un livre qui est très complexe. C'est pas un truc qu'on prend comme ça à la légère, qu'on lit avec une interprétation littérale, ce que malheureusement trop de gens font.
Et donc, avec un code, avec une foi, un objectif de foi, avec un code moral qui peut être tout à fait légitime.
Et qui est encore de vigueur aujourd'hui. Là, par exemple, tu ne tueras point. Bon, il y a des éléments comme ça. Ce sont des codes. On a instauré un code moral qui a transcendé les siècles. Hein, ce code moral-là, il est encore à la base de la culture occidentale. Ce sont des règles que l'on essaie de respecter en société pour le mieux-être de notre vie commune avec le voisin.
Et la Bible canonique.
Oui.
Et le livre
le plus vendu
de l'histoire.
Au monde, premier livre d'ailleurs, imprimé par Gutenberg avec l'invention de l'imprimerie. Oui. C'est le livre, effectivement, le plus vendu, dite la Sainte Bible, qui comprend la Torah, les livres secondaires qui suivent, et ensuite le Nouveau Testament qui lui raconte la vie de Jésus, avec évidemment d'autres livres un peu secondaires qu'on retrouve ensuite.
Et d'ailleurs, la vie de Jésus, on y reviendra
la semaine prochaine, dans un spécial de 2 heures, le mystère Jésus.
Le récit du déluge et de Noé par le fait même.
Ah, ça, c'est une histoire qui est tout à fait fascinant. D'abord, ce récit du déluge, on rappelle pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est-à-dire que Dieu, à un moment donné de la création, est insatisfait des hommes, en fait, voit la perversité des hommes et décide de gommer, en fait, ce qu'il a fait pour recommencer. Mais parmi tous ces hommes, il y en a un de vertueux, c'est Noé. Il l'a choisi, lui et sa famille, et il lui dit, tu construiras une arche dans laquelle tu transporteras une paire de tous les animaux existants. Mmh. Donc, on comprend que ce sont les animaux locaux. Noé, n'a pas été en Afrique ou n'a pas été en Amérique pour ramasser des insectes, des bébites, là, bon. Donc, on comprend, c'est une imagerie. Tu vas transporter une paire de tous ces animaux. Et ensuite, Dieu va faire un déluge qui va durer pendant 40 jours. Et ce déluge-là, nous dit la Bible, il va couvrir les plus hautes montagnes. En fait, on parle d'un déluge global même qui dépasse les plus grandes montagnes. Ce récit-là, écoute, des historiens se sont penchés là-dessus et ont découvert 250 versions du récit du déluge dans d'autres cultures. Donc, il semble que ce soit un récit qui soit commun à de très nombreuses sociétés. Pas seulement la Genèse, parce que dans la Torah, le Pentateuch, c'est la Genèse qui nous révèle, qui nous raconte ce récit du déluge. Mais il est retrouvé dans d'autres cultures, même chez les Amérindiens. On a l'un de ces valeureux guerriers qui éventuellement va survivre à un déluge en embarquant lui, sa famille et des animaux dans une barque qui va se retrouver au sommet d'une montagne. Mmh. Donc, on voit que ce sont des récits qui sont très répandus. Ce qui est intéressant dans le cas du récit de la Genèse, c'est que ce récit-là, à peu près, on sait qu'il s'agit de textes qui constituent la Torah, donc rassemblés entre à peu près, on y va toujours, on s'enfarge pas dans les fleurs du tapis, là, entre 800 ans et 300 ans à peu près avant Jésus. Ce sont les textes qui vont constituer ces éléments de la Genèse. Or, on sait que 2700 ans avant Jésus-Christ, donc 1000 ans, 1500 ans avant l'écriture des textes de la Genèse, il y avait déjà dans une épopée à Sumer, hein, donc des textes écrits sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme, en Mésopotamie, cette épopée, cette aventure qui raconte les aventures de Gilgamesh et qui nous raconte un récit fort semblable au déluge, donc des eaux, une inondation globale et des vertueux qui sont sauvés sur une embarcation. Et ce récit-là, il est quand même antérieur à l'écriture de la Genèse d'à peu près 1000 ans. Donc, encore une fois, ce que l'on voit ici, c'est que des récits vont encore une fois être colportés, réadaptés en fonction de la vision que les auteurs veulent donner de leur histoire. Maintenant, cette histoire de Noé, qu'est-ce que l'on peut dire? Regardons maintenant la trame historique. Les historiens sont tous unanimes. Un déluge global n'a jamais existé. Donc, l'image d'un déluge qui va couvrir la planète et ensevelir les plus hautes montagnes, c'est une invraisemblance. Ça n'existe pas. Donc, c'est une imagerie, une allégorie. On sait par contre que le récit aurait pu être inspiré par des déluges locaux. L'un des déluges les plus importants s'est produit à peu près 5600 ans avant Jésus-Christ. On sait que la mer Noire, et ça, on le tient par des travaux archéologiques, parmi lesquels, d'ailleurs, a contribué notamment Robert Ballard, le même qui a découvert le Titanic dans les années 80. Donc, ce Robert Ballard, qui travaille à la Woodall Oceanographic Institution aux États-Unis, ben en fait, maintenant, il est à la retraite, mais qui travaillait à cette époque-là, lui et d'autres groupes de chercheurs ont pu clairement démontrer que 5600 ans avant Jésus-Christ, la mer Noire s'était déversée littéralement dans la mer de Marmara par le détroit de Bosphore, parce qu'il faut savoir que quand on regarde la ville d'Istanbul, c'est la seule ville au monde qui est à la fois en Asie et en Europe. Hein? Mmh. Il y a une partie de la ville qui est en Europe et l'autre partie, elle est en Asie. Elle est séparée par le détroit de Bosphore. Au nord, on a la mer Noire, au sud, la mer de Marmara. Et on sait que 5600 ans avant Jésus-Christ, dans une énorme inondation, en fait, la mer Noire s'est déversée dans la mer de Marmara. Et ça, on a des preuves archéologiques. On croit que ce sont ces grands déluges, principalement celui-là, qui aurait transcendé le temps par des traditions orales et qui aurait finalement inspiré le récit du déluge dans lequel Noé va survivre au déluge divin en emportant des couples d'animaux. Maintenant, bien sûr, sur le terrain, laissons l'histoire et entrons dans la légende. Parce que dans la Bible, on nous dit, après tout ce déluge, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat.
Où t'es allé?
Bien sûr, et les montagnes d'Ararat, qu'est-ce que c'est? Les historiens restent très indécis là-dessus, mais il semble que les montagnes d'Ararat, parce que la Bible parle bien d'un pluriel, elle ne dit pas le mont Ararat, elle dit les montagnes d'Ararat. Or, les montagnes d'Ararat étaient une chaîne de montagnes qui se trouve aujourd'hui en Arménie. Ça ne veut pas dire qu'on était au sommet de la montagne. Elle s'est arrêtée sur les montagnes d'Ararat. Mais le fait qu'il y a aujourd'hui, en Turquie, une montagne tout près de la frontière de l'Arménie qui s'appelle le mont Ararat, bien sûr, ça fait rêver. Et depuis des siècles, on a toutes sortes de récits invérifiables. Des gens qui reviennent de la montagne en disant, lors d'un printemps précoce, j'ai pu voir les vestiges d'un navire dans la glace, dans un glacier, la pointe d'un bateau qui dépassait. Et tout ça, ça fait fantasmer. Et au cours du dernier siècle en particulier, des équipes se sont constituées pour monter sur la montagne Ararat, pour explorer ces grands glaciers, le mont Ararat. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est quand même 5200 mètres à peu près, 5165 mètres pour être précis. C'est une montagne avec des neiges éternelles. Et j'y suis allé.
C'est un gros hiking.
Ouais, et c'est un gros hiking. Et lorsqu'on arrive dans les neiges éternelles, il y a un glacier, le glacier Parrot, entre autres. Et c'est à cet endroit-là que les légendes voudraient qu'on aurait vu des vestiges de ce navire. Donc, inutile de dire que jusqu'à maintenant, toutes sortes d'aventuriers s'y sont donné rendez-vous, et pas les moindres. Hein. Parmi eux, il y avait nul autre que James Irwin. James Irwin, c'était le commandant du module d'atterrissage de la mission Apollo 15. Donc, l'un des 12 hommes à avoir marché sur la Lune, qui était un croyant convaincu,
ouais,
et qui a consacré les dernières années de sa vie à essayer de retrouver ou de prouver que l'arche de Noé était au sommet de ce mont Ararat. Bien sûr, il n'y a aucune preuve qui a jamais été apportée de ça. Ici, on doit faire rapidement, disons que tout près du mont Ararat, à quelques kilomètres de là, dans les années 60, l'OTAN avait chargé un photographe depuis les airs de photographier cette région, parce que c'était quand même la guerre froide, on est près de la frontière de l'Union soviétique, et il a photographié une espèce de formation rocheuse en forme de bateau. Et comme ce photographe s'appelait Ian Duripinard, on a baptisé cette forme rocheuse l'Arche de Duripinard. En fait, c'est une formation rocheuse qui fait 165 mètres de long, qui se trouve au fond d'une vallée qui rappelle vaguement la forme d'un bateau. Alors des gens, là aussi, se sont dit, et si c'était l'arche de Noé pétrifiée? Donc, j'y suis allé également. C'est quand même très impressionnant quand on le voit, mais malheureusement, des recherches archéologiques, des carottages du sol semblent démontrer qu'on est en présence ici d'une curiosité géologique, mais d'une curiosité naturelle qui serait simplement une formation fabriquée par des grandes coulées de boue. Alors, encore une fois, pour l'Arche de Noé, la preuve archéologique n'est pas là.
Dans un instant, Christian, les géants de la Bible, mais aussi je veux qu'on parle de la dualité Dieu-Diable.
Absolument.
À Mythes et Complots.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
À l'approche de Noël, les mystères de la Bible aujourd'hui à l'émission, et parlons des géants de la Bible ou les Néphilim.
Ouais, en fait, ce sont des personnages qui sont relativement secondaires. Hein. La Bible, on parle toujours de la Bible canonique, elle en parle seulement à 2 ou 3 reprises seulement de ces personnages, ces géants. On a un passage ici, par exemple, dans la Genèse, on nous dit « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Ces géants, ces personnages, qui sont-ils? La Bible est très, très, disons, vague sur l'identité de ces géants, de ces néphilim, comme on les appelle. Il pourrait s'agir d'anges déchus. Et là, ben évidemment, ça fait fantasmer. Est-ce qu'il y a eu de ces géants qui ont existé, qui ont peuplé le monde? D'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on parle des anges déchus, on parle un peu du diable. Hein? C'est ça qu'on imagine. Il faut savoir que le diable, lui aussi, est un emprunt. Hein? C'est-à-dire qu'au départ, on a un dieu et qui est à la fois bon et méchant. C'est-à-dire que lorsqu'il voit que l'homme est perverti, il décide de lui-même de détruire la création pour refaire un autre début. Mais les Hébreux semblent avoir compris assez rapidement, les auteurs des textes semblent avoir compris qu'on sort vainqueur si on a un ennemi. Donc, on va emprunter probablement chez les Babyloniens l'existence d'un méchant dieu qui s'appelle Baal. On va le récupérer pour finalement donner corps à Lucifer, le diable, l'ange déchu. Mais si on revient sur le plan historique ou archéologique, qui sont ces géants de la Bible? Il n'y a pas de certitude. Encore une fois, c'est toujours du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Les historiens croient que, il faut savoir qu'à l'époque, à cette époque, il y a 2000 ans, par exemple, 2000, 2500 ans, le monde était statique. Hein? Les gens, par exemple, allaient aux champs, élevaient des brebis, ils utilisaient les mêmes outils que leurs parents avaient utilisés, que leurs grands-parents avaient utilisés, ils vivaient dans la même chaumière que leurs parents, leurs grands-parents. Le monde ne bougeait pas. Le monde, il était tel que Dieu l'avait créé, et leur vision était que le monde allait durer comme ça ad vitam aeternam. Il ne changerait jamais. Mmh. Mais bien sûr, de temps à autre, et en creusant un puits, on tombait sur des ossements géants, un fémur géant, une dent géante. Alors pour ces gens, bien sûr, il était impossible d'imaginer qu'il y avait 300 millions d'années, la Terre avait été peuplée de dinosaures. Oui. Or, comme il fallait donner un sens à la découverte de ces os, qui étaient bien réels, et un fémur ressemble à un autre fémur, alors on s'imaginait des récits fabuleux. À un moment donné, il devait y avoir eu des dragons, des géants, et ces géants étaient peut-être les fils de Dieu. Donc on s'imaginait toutes sortes de récits légendaires pour donner un sens à la découverte de ces ossements qui devaient se faire à cette époque en creusant des puits, comme on découvre encore aujourd'hui souvent à fleur du sol, comme ça, après quelques coups de pioche, on découvre des ossements de dinosaures. Mais bien sûr, pour eux, comme le monde était tout à fait statique, il ne changeait pas, il fallait obligatoirement que ces animaux aient été des œuvres divines et voire plus des fils de Dieu.
Et Christian, tu devrais écrire un livre pour démystifier la Bible. Parce qu'on a passé seulement quelques minutes et quand même, on a appris plusieurs choses.
Ah ben peut-être, ça fera peut-être partie de mes projets de retraite. Donc, écrire un ouvrage sur la Bible vue sur le plan de l'histoire.
Parfait. Merci, Christian.
Ça me fait plaisir.
Toujours très intéressant. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là. Mario Langlois, merci à la réalisation. Valérie Beaudoin, également, qui est en studio. On remet le tout la semaine prochaine avec le mystère Jésus.
Un spécial de 2 heures.
Parfait. À la semaine prochaine. Salut, Christian.
Salut.